Deutsche Welle, le journal. Fréjus Kenom.
Bonsoir à tous, il est 17h en temps universel et 18h à Bonn. Bienvenue à l'écoute du programme francophone de la Deutsche Welle, la radio internationale d'Allemagne. Au sommaire de nos informations ce soir, l'annonce de la démission de Robert Mugabe. Près d'une semaine après le coup de force de l'armée, le président de l'Assemblée zimbabwéenne a présenté la lettre de démission aux députés et sénateurs réunis pour débattre de la procédure de destitution. Le récit de cette journée historique au Zimbabwe et les toutes premières réactions dans quelques minutes. Dans ce journal également, une nouvelle manifestation sociale entraînant la mort en Guinée-Conakry. La société civile crie haro. Nous entendrons les explications de Bangali Kondé. Et puis le début d'une série de consultations à Berlin pour trouver une solution au blocage de la formation d'un gouvernement de coalition. À la manœuvre, le président allemand Frank-Walter Steinmeier. Et nous commençons donc ce journal avec le bulletin d'information présenté ce soir par Constance von Kotze. Bonsoir Constance.
Bonsoir Fréjus, bonsoir à tous.
Et bien sûr, la démission historique de Robert Mugabe.
Le président zimbabwéen dépose donc les armes, si l'on veut, après 37 ans de pouvoir et une semaine mouvementée où il a tenté sans succès de sauver la mise. Lors d'une session extraordinaire du Parlement à Harare qui débattait justement de sa destitution, le président de l'Assemblée nationale a lu la lettre de démission du chef de l'État. Une démission qui prend effet immédiatement. En revanche, le document ne mentionne pas le nom de celui qui est désormais en charge du pays. Qu'importe, la joie est grande dans les rues de Harare, la capitale. Un concert de klaxons a salué l'annonce de la démission de Robert Mugabe, un homme dont le long règne restera marqué par de nombreuses violations des droits de l'homme et une terrible crise économique. Plus de détails dans un instant.
Et nous apprenons aussi qu'à Johannesburg, en Afrique du Sud, des Zimbabwéens sont sortis dans les rues pour manifester leur joie. En attendant de revenir sur l'actualité au Zimbabwe, Constance, nous parlons de l'Allemagne. Le président Frank-Walter Steinmeier doit donc jouer les pompiers pour éviter au pays des élections anticipées.
Oui, un pompier diplomate puisqu'il doit tenter de résoudre une crise politique inédite en aidant la chancelière Angela Merkel à rester au pouvoir. Aujourd'hui, Frank-Walter Steinmeier a eu des entretiens avec les dirigeants des Verts et du FDP pour étudier la possibilité de sauver la coalition Jamaïque. Une coalition, le rappelle, aux couleurs de l'île des Caraïbes, noir pour les conservateurs, vert pour les écologistes, jaune pour les libéraux. Rien n'a filtré à l'issue de ces rencontres. Jeudi, il doit recevoir Martin Schulz, le chef des sociodémocrates, qui refuse une nouvelle alliance avec Angela Merkel. Celle-ci a déjà donné sa préférence à l'organisation de nouvelles élections et s'est déclarée prête pour une nouvelle candidature. En attendant, elle reste à la tête du gouvernement pour expédier les affaires courantes. En Allemagne, toujours 6 Syriens soupçonnés de préparer une attaque ont été interpellés. Il s'agit de 6 demandeurs d'asile âgés de 20 à 28 ans, membres présumés de l'organisation État islamique et soupçonnés de préparer en Allemagne une attaque avec des armes ou à l'explosif. Les arrestations ont eu lieu ce matin lors de perquisitions conduites simultanément dans 4 villes, Kassel dans le centre-ouest, Hanovre dans le nord, Essen dans l'ouest et Leipzig dans l'est. Le parquet de Francfort n'a pas fourni d'éléments potentiels, mais selon plusieurs médias, les suspects auraient projeté une attaque contre le marché de Noël de la ville de Essen. Ils ont pu être interpellés grâce aux informations fournies par d'autres demandeurs d'asile.
Au Nigeria, un attentat suicide n'a au contraire pas pu être évité.
Au moins 50 personnes ont été tuées dans une attaque attribuée au groupe djihadiste Boko Haram et qui a frappé une mosquée de Moubi dans le nord-est du pays. De nombreux blessés ont été transférés vers les hôpitaux de la région pour être soignés en urgence. Selon un responsable de la police, le kamikaze s'est mêlé aux fidèles pour entrer dans la mosquée et a déclenché ses explosifs durant les prières.
Rencontre surprise entre le président de la Syrie, Bachar el-Assad, et le chef du Kremlin, Vladimir Poutine.
Elle s'est déroulée hier soir à Sotchi, la station balnéaire dans le sud-ouest de la Russie. À retenir la déclaration de Vladimir Poutine, selon laquelle l'opération commune des forces russes et syriennes contre le terrorisme touche à sa fin. Désormais, cap sur le processus politique. Demain, le président russe retrouvera ses homologues turcs Recep Tayyip Erdogan et iranien Hassan Rouhani pour un sommet tripartite. Il s'agira de rapprocher leurs positions sur le conflit syrien à quelques jours de la reprise des pourparlers politiques à Genève sous l'égide de l'ONU.
Et nous terminons, Constance, avec la Chine qui appelle au dialogue sur le dossier nucléaire nord-coréen.
Apaisement des tensions, retour au pourparlers de paix et négociations. Voilà ce que préconise le ministère chinois des Affaires étrangères. En réponse à la dernière action des États-Unis, Donald Trump a décidé en effet de réinscrire la Corée du Nord sur la liste noire des États soutenant le terrorisme. Le régime de Pyongyang rejoint ainsi l'Iran, la Syrie et le Soudan. Il avait déjà figuré sur cette liste de 1988 à 2008 pour son implication présumée dans un attentat à la bombe contre un avion sud-coréen.
Constance Van Kotze pour le bulletin d'information. Merci beaucoup. Il est 17h05 en temps universel.
Oui, nous sommes heureuses.
Tellement heureuses.
On plane.
Ouais, on plane complètement.
Voilà, vous entendez la joie des manifestations de joie aujourd'hui au Zimbabwe où l'on a appris la démission du président Robert Mugabe au bout de 37 ans de pouvoir. Des manifestations également en Afrique du Sud où des Zimbabwéens sont donc sortis dans les rues pour exprimer leur joie. Beaucoup de réactions. Nous reviendrons tout à l'heure sur les premières réactions à cette annonce de démission de Robert Mugabe. Mais en attendant, on fait un récit de la journée avec Eric Topona. Bonsoir Eric.
Oui, bonsoir Fosius.
Alors donc, après plusieurs jours de tractations, Robert Mugabe a présenté aujourd'hui sa démission devant l'Assemblée nationale réunie en session extraordinaire à Harare. Il n'était pas là physiquement, c'est le président du Parlement qui a annoncé donc cette démission. Le Parlement était réuni depuis ce matin pour enclencher la procédure de destitution de Robert Mugabe, accusé d'avoir violé la Constitution du pays.
Oui, tout à fait, Fréjus. Moi, Robert Gabriel Mugabe, remets formellement ma démission de président de la République du Zimbabwe avec effet immédiat. Voilà ce que disait en substance la lettre de démission du chef de l'État, lue par le président de l'Assemblée nationale, vous le disiez, Jacob Mundenda, suivi de salves d'applaudissements à tout rompre. Une démission au forceps qui vient ainsi mettre un terme à plusieurs décennies d'engagement politique de Robert Mugabe, dont 37 ans de règne sans partage à la tête du Zimbabwe.
Oui, il faut dire, Eric, que ces dernières 24 heures, les appels à la démission de Mugabe étaient montés au crescendo.
Oui, tout à fait. Depuis le putsch opéré par l'armée la semaine dernière, Robert Mugabe a été lâché par ses principaux soutiens, une partie de l'armée, l'opinion publique nationale, notamment avec des manifestations monstres des populations à travers quasiment tout le pays, fait inédit, même le parti qu'il a fondé, la ZANU-PF l'a destitué dimanche dernier de la présidence et a exigé purement et simplement sa démission de la tête du pays. Demande réitérée par l'association des vétérans de la guerre de libération contre le colon britannique, Robert Mugabe n'a pas résisté.
Voilà, et l'armée à l'origine de ces soubresauts politiques a curieusement fait profil bas en privilégiant une issue pacifique. Alors, sa tactique a apparemment porté ses fruits, Eric.
Oui, face au tollé général qu'a suscité son immixtion à l'immixtion de l'armée dans l'arène politique zimbabwéenne, eh bien, la Grande Muette a effectivement opté pour une posture plus consensuelle, c'est-à-dire offrir des gages pour obtenir la démission en douceur du vieux président, Robert Mugabe. Une attitude assimilée par certains analystes à un double jeu, mais qui a pourtant fini par marcher.
À l'issue d'une réunion d'urgence du bloc régional de la communauté de développement de l'Afrique australe, la SADC, les présidents angolais João Lourenço et son homologue sud-africain Jacob Zuma étaient attendus normalement demain, mercredi, à Harare. Est-ce la confirmation tacite que Robert Mugabe a bénéficié du soutien de ses pairs de la sous-région jusqu'au bout?
Oui, c'est l'opinion partagée par beaucoup d'analystes sur la situation au Zimbabwe. Mais je vous propose d'écouter le point de vue de Stéphanie Volte, qui est elle aussi spécialiste du Zimbabwe, à l'Institut d'études de sécurité de Pretoria en Afrique du Sud.
La SADC et l'Afrique du Sud ont beaucoup plus parlé du retour à l'ordre constitutionnel. Ils n'ont pas parlé précisément de Mugabe et je crois que c'est parce qu'il y a beaucoup de gens qui soutiennent la démarche prise par l'armée et qui souhaitent voir un changement à la tête du Zimbabwe, mais qui n'auraient pas osé le dire avant que les forces domestiques au Zimbabwe l'ont fait.
Voilà, les forces domestiques qui l'ont déjà fait à travers donc cette démission inattendue de Robert Mugabe. Le moment tant attendu par les Zimbabwéens semble donc arriver, car vous le rappelez aussi, Fréjus, un concert de klaxons a suivi l'annonce de la démission de Robert Mugabe. Nous sommes tout simplement tellement heureux. Enfin, les choses changent. C'est ce qu'a déclaré à nos confrères de l'agence France Presse un habitant d'Harare, la capitale. Rappelons que Robert Mugabe est arrivé au pouvoir en 1980. C'est une période correspondant à l'accession à l'indépendance de l'ex-Rhodésie devenue Zimbabwe.
Mmh, bien sûr, mais vous faites bien de parler de cette époque où le Zimbabwe, la Rhodésie du Sud, a obtenu son indépendance. Aujourd'hui, la première ministre de l'ex-puissance coloniale, c'est-à-dire la Grande-Bretagne, a réagi à cette annonce de la démission de Robert Mugabe. Après Mugabe, le Zimbabwe a l'opportunité d'un avenir sans oppression, et c'est une démission qui donne à Mugabe une chance pour être libre. Ce sont des extraits de Theresa May. Sachez que après la démission maintenant de Robert Mugabe, eh bien la reine d'Angleterre, Elisabeth II, devient la doyenne des chefs d'État en exercice dans le monde. Et si vous voulez, cette petite précision, la reine Elisabeth II d'Angleterre, qui a célébré hier son 70e anniversaire de mariage avec le prince Philippe. Il n'y a pas que la Grande-Bretagne qui a réagi. Les Zimbabwéens eux-mêmes ont réagi. Alors, tout à l'heure, on pouvait voir dans les rues beaucoup de manifestants criant leur joie au son de un avenir radieux, un avenir radieux. Et vous l'avez mentionné ailleurs, hors du Zimbabwe. Il y a également des réactions dont nous parlerons au fur et à mesure de cette édition. Et bien sûr, rejoignez-nous. Je peux déjà l'annoncer demain matin, à partir de 7h temps universel sur Info Matin, pour d'autres informations concernant la démission donc de Robert Mugabe. Mais très rapidement, pour boucler ce dossier, en tout cas pour l'instant, sachez que comme Robert Mugabe, il y a bien d'autres chefs d'État africains qui ont été contraints de céder le pouvoir. Je vais citer quelques-uns. Mamadou Tandja est renversé le 18 février par un putsch militaire pour avoir modifié la constitution dans son pays. En Tunisie, après 23 ans de règne sans partage, Zine El Abidine Ben Ali s'enfuit en Arabie Saoudite, pressé par la rue. En Égypte, pareil, avec Hosni Moubarak au pouvoir depuis 1981. En Côte d'Ivoire, le 11 avril, Laurent Gbagbo au pouvoir depuis une élection controversée en 2000, a dû donc abandonner le pouvoir sous la pression. C'est pareil pour Muammar Kadhafi. On peut également parler de Amadou Toumani Touré au Mali le 22 mars 2012, tout comme la Centrafrique, où après 10 ans de pouvoir, François Bozizé est renversé un certain 24 mars par la rébellion Silika. Alors, la liste n'est pas exhaustive, on s'en arrête là pour l'instant. Alors qu'il est 17h12 en temps universel, nous venions de parler de la démission de Robert Mugabe au Zimbabwe.
Deutsche Welle.
Des troubles en Guinée-Conakry. Les manifestations violentes sont régulières dans ce pays. Un étudiant a été tué hier lors d'un rassemblement qui réclamait de meilleures conditions matérielles pour l'éducation. La question de la violence était au centre d'une rencontre récemment organisée à Conakry. Une ONG travaille d'ailleurs à renouer le dialogue entre jeunes et forces de l'ordre afin de mettre un terme aux violences. C'est un reportage de notre correspondant Bangali Kondé.
Alors qu'un étudiant a été tué hier dans la grève des enseignants à Conakry, une formation propose d'entreprendre à dialoguer pour empêcher les violences. L'initiative est organisée par l'ONG Femmes, Développement et Droits Humains en Guinée. Celle-ci réunit les acteurs impliqués dans les manifestations en Guinée, notamment les jeunes et les forces de sécurité. Moussa Iroba, la responsable de cette ONG, estime que les Guinéens doivent se mettre ensemble pour surmonter les différends.
Je me dis que si on réussit à mettre ensemble ces jeunes, généralement qui sont des leaders, qui sont sur le terrain quand c'est chaud, c'est eux, ils pourraient faire des recommandations, des propositions aux agents des services de sécurité. Qu'est-ce qu'ils attendent des agents des services de sécurité quand il y a manifestation? Et les agents des services de sécurité, police, gendarmerie, pourraient dire à ces jeunes, nous attendons cela de vous. Nous attendons que vous manifestiez de façon pacifique. Peut-être que les jeunes pourraient leur dire, nous ne voulons pas que vous nous tiriez dessus parce que nous ne sommes pas vos ennemis, nous voulons juste qu'il y ait la paix.
Plusieurs victimes des manifestations politiques en Guinée étaient présentes à la rencontre organisée à Conakry. C'est le cas d'Ibrahima Barry qui a été blessé au bras lors de la dernière manifestation de l'opposition. Il demande aux forces de l'ordre d'utiliser des armes non létales.
Je suis en train de manifester sur un policier qui passe sur la route. Il nous a donné 3 balles. Nous sommes 3. Moi, avec un de mes amis, moi, j'ai reçu la balle sur ma main. L'os s'est cassé. Que moi, je venais ici, on peut manifester, mais pas le violent.
Le directeur national des unités d'intervention de police a lui-même participé à cette formation. Il s'est défendu en disant que les morts par balle ne viennent pas du dispositif qu'il déploie lors des manifestations. Colonel Ansman Camara Bafoué.
Toutes les enquêtes qui ont été faites, vous ne verrez jamais un agent de maintien d'ordre, que ce soit du côté police ou gendarmerie, qui est en train de dégainer son arme pour tirer sur un manifestant. Parce que nous déjà, quand on est dans la manifestation, on est face à eux d'abord qui ont des téléphones, des smartphones qui prennent. Vous aussi, vous avez vos caméras. C'est aussi facile de distinguer celui qui a tiré.
Pour rappel, depuis 2010, les manifestations politiques ont fait plus de 80 morts en Guinée. Au cours de la rencontre, les forces de l'ordre et les manifestants se sont rejetés les responsabilités. Les conclusions de cette formation seront remises aux autorités guinéennes. Bangali Kondé à Conakry pour la Deutsche Welle.
Et sachez qu'une quinzaine de personnes au moins ont été blessées aujourd'hui à Conakry où des affrontements ont encore opposé pour le 2e jour consécutif les forces de l'ordre à de jeunes manifestants qui dénonçaient la situation dans le secteur de l'éducation en Guinée. L'ancien chef de la diplomatie du Sénégal, Cheikh Tidiane Gadio, devant la justice américaine pour corruption, arrêté à New York, il est soupçonné d'avoir obtenu des concessions pétrolières au Tchad et en Ouganda au profit d'une entreprise dirigée par un homme d'affaires chinois, Shi Pinghu, co-accusé en échange de pots de vin. Ceux-ci auraient été versés au président tchadien Idriss Déby Itno et au ministre ougandais des Affaires étrangères, Sam Kutesa. Les deux suspects risquent 20 ans de prison. Mireille Drone, bonsoir.
Bonsoir Fréjus, bonsoir à tous.
Vous avez recueilli des réactions à ce sujet sur les réseaux sociaux.
Oui, sur Twitter où l'info a été largement relayé avec force détails sur les dessous de table. Serigne et Aladji Ditar fait un jeu de mots. Donc, en gros, écrit-il, Gadio est allé au Tchad pour activer la connexion Ho Dibi. Ho en référence au nom du Chinois qui dirige l'entreprise chinoise incriminée. En revanche, j'en crois pas mes yeux, Gadio arrêté pour corruption, c'est pas possible, tweet Maud Ibrahim. Et Justice et Justice JFK observe la différence entre lobbying et corruption. Lobbying, c'est quand c'est en faveur des USA. Corruption, c'est quand c'est en faveur de la Chine, soupçonne ce tweeto. Tandis que Wally sur Nandan se dit de tout cœur avec cher Tidiane Gadio, le panafricaniste. Je ne crois pas en ces accusations, jusqu'à preuve du contraire, écrit-il.
Et les utilisateurs des réseaux sociaux ne sont pas non plus avares de commentaires.
Sur WhatsApp, en effet, Mahaman du Mali estime que cette affaire de corruption au plus haut niveau est une triste réalité et confirme que l'Afrique est pillée par ses propres dirigeants. L'attribution des licences d'exploitation des ressources minières africaines s'effectue toujours par des pots de vin acceptés par des dirigeants qui ne pensent jamais à l'intérêt de leur peuple, affirme-t-il. L'Afrique est vraiment malade de ses fils, se désole aussi Christian de Lomé. Selon lui, c'est à cause de ses méthodes de corruption, d'enrichissement illicite et de blanchiment que les hommes politiques ne veulent pas libérer le pouvoir. Pas très étonné, Issa du Tchad pense qu'il y a longtemps qu'Idriss Déby a vendu le Tchad aux enchères, au plus offrant, pour se remplir les poches, lui et son gouvernement de moutons. Et Gilles du Niger souhaite que Gadio soit condamné s'il y a lieu.
Et d'autres se montrent toutefois méfiants, Mireille.
Oui, sur Facebook, Fabien du Tchad pense que la justice américaine n'est pas impartiale. Pourquoi inculper seulement Gadio et le Chinois, se demande-t-il. Idriss Déby devrait aussi répondre de ses actes si ce scandale est révélé et il estime que s'il s'était agi de Shell, Areva, Exxon, Elf, etc., rien n'aurait été dévoilé. Sekou de Bamako, Ibrahima de Matam au Sénégal et Mamadou de Fana au Mali se demandent pourquoi la justice américaine se saisit de cette affaire. Alors c'est parce que les inculpés ont violé la loi américaine sur la corruption qui concerne les manœuvres frauduleuses à l'étranger. Normalement, ces transactions auraient dû être l'objet d'appels d'offres, ce qui n'a pas été le cas, et la justice américaine est déterminée à poursuivre ceux qui compromettent la compétitivité des entreprises. Les personnes inculpées sont soupçonnées d'avoir, entre autres, fait transiter près $1 million par l'intérimaire du système bancaire new-yorkais.
Mireille Drone, merci beaucoup. En République démocratique du Congo, la conférence épiscopale nationale CENCO a présenté un rapport critique sur l'avancement du processus d'enrôlement des électeurs. La La CENCO a aussi dénoncé la décision unilatérale repoussant la tenue des élections au 23 décembre 2018. Un rapport qui a été mal reçu par la commission électorale. Plus de détails avec Salé Mwanamilongo.
Si dans l'ensemble, les rapports jugent globalement positif le processus d'enrôlement des électeurs, mais la commission justice et paix de la CENCO relève certaines faiblesses. Sur le fichier électoral, les rapports s'inquiètent des doublons et relèvent des cas d'électeurs autorisés à s'inscrire sans document d'identité valable, parfois même des mineurs. Selon l'abbé Donatien Chollet, secrétaire exécutif de la CENCO, l'insécurité au Kassai ne saurait expliquer les retards d'enrôlement des électeurs pris dans les autres provinces.
Le fichier électoral en construction comptera aussi des décédés en son sein. Les noms de personnes ayant changé d'adresse ne figureront pas sur la liste électorale des bureaux de vote et de leur nouvelle localisation. Les personnes qui vont recouvrer leurs droits civils et politiques avant les jours de scrutin n'y figureront pas. La mission d'observation JPC-CENCO invite ainsi la CENI à maximiser le temps pour que les élections aient lieu le plus vite possible.
La CENCO a regretté aussi le report du calendrier électoral au 23 décembre 2018 sans au préalable un consensus des parties prenantes. Mais pour le président de la Commission électorale nationale indépendante CENI, Corneille Nanga, présent à la cérémonie de présentation du rapport, le débat autour des dates d'élection n'a plus sa place aujourd'hui.
Les discussions ou les débats autour de pourquoi décembre, pourquoi le 23, pour ça, c'est un débat qui est passé derrière nous. Et pour ceux qui pensent encore qu'ils vont revenir pour discuter pinailler des dates, c'est trop tard.
Corneille Nanga a ajouté qu'à ce jour, plus de 44 millions d'électeurs sont enregistrés. Reste à finaliser l'opération dans les Kassai centrales et des territoires voisins. Le calendrier électoral prévoit la fin de l'opération d'enrôlement des électeurs pour le 31 janvier 2018. Les évêques catholiques, membres de la CENCO, vont se prononcer ce vendredi sur la publication du calendrier électoral à l'issue de leur conférence annuelle. Salé Mwanamilongo, à Kinshasa, pour la Deutsche Welle.
Vous écoutez toujours Radio Deutsche Welle, 17h21 en temps universel.
Deutsche Welle. Rendez-vous sur facebook.com/dw.français.
Le monde entier continue de s'indigner après les révélations concernant la vente de migrants africains comme esclaves en Libye. Pourtant, l'esclavage n'est pas nouveau dans ce pays. Alors pourquoi cette émotion aujourd'hui sur une tragédie qui dure depuis des années? On écoute l'analyse de Rachid Keshana, directeur du Centre maghrébin d'études sur la Libye. Il est interrogé par Blaise Dariuston.
Ça fait des années que la Libye est considérée par les Africains venant de la région du Sahara comme un couloir vers l'Europe. Mais malheureusement, ils sont maltraités par les milices qui prennent leur argent et qui les empêchent de continuer leur voyage vers l'Europe. Ou bien ils tombent entre les mains de trafiquants d'êtres humains qui prennent leur argent en les faisant croire qu'ils vont bénéficier de facilités pour aller vers les côtes sud de l'Italie.
Oui, tout le monde savait que des migrants sont soumis à une situation d'esclavage pendant plusieurs années dans cette zone, mais rien n'a été fait. Pourquoi c'est maintenant que des responsables politiques en Afrique, des Africains s'indignent?
Justement, je crois que tous les observateurs se posent la question. Pourquoi, après tout ce qui s'est passé avant, on ne prête de l'attention à ce sujet que maintenant? On aurait dû essayer de l'endiguer au départ, quand le nombre de migrants était beaucoup moins important. Maintenant, tous les médias en parlent, avec des images à l'appui qui, justement, prouvent qu'il s'agit bien de réalité et pas de montage. Donc, c'est là que les gouvernements se sont sentis indisposés et mal dans leur peau. Donc, ils sont interpellés et ils doivent, justement, rendre compte à leurs citoyens. C'est pour ça qu'ils prennent quelques mesures, mais à mon avis, ce sont des mesures purement formelles et ça ne résout pas le problème. Pour résoudre le problème, il faut aller tout droit pour attaquer les milices et les chefs de milice en Libye. Malheureusement, des pays démocratiques comme l'Italie est en train de financer et de traiter avec les chefs de milice. Elle leur donne de l'argent parce qu'ils lui ont promis d'essayer de maîtriser l'immigration à partir des côtes libyennes. Mais on découvre par la suite qu'ils sont des gens ambivalents, ils donnent ces promesses et en parallèle, ils continuent leur trafic d'êtres humains, ils continuent à percevoir de l'argent de ces immigrants pour leur autoriser ou les autoriser à traverser la Méditerranée.
Et nous parlons maintenant de la politique en Allemagne. Le président Frank-Walter Steinmeier s'investit dans la recherche d'une porte de sortie suite au blocage dans les négociations en vue de la formation d'un gouvernement de coalition. Des consultations qui pourtant ont des chances assez limitées. C'est ce que nous explique Sandrine Blanchard.
À peine une heure d'échange, deux représentants du Parti des Verts sont ressortis du château Bellevue cet après-midi sans faire de déclaration. Simone Peter et Cem Özdemir sont ainsi les premières personnalités politiques rencontrées par le président allemand Frank-Walter Steinmeier. Celui-ci tente de relancer les négociations en vue de la formation d'une coalition gouvernementale après l'échec des partis à trouver un consensus. Après les Verts, c'est au tour du chef des libéraux du FDP, Christian Lindner, de rencontrer le président. Lors de la session parlementaire ce matin, le sujet a évidemment été évoqué. Wolfgang Schäuble, le président du Bundestag.
Ce qu'il faut de la part de ceux qui portent une responsabilité politique, c'est une compréhension pour l'exercice d'équilibre nécessaire. Même s'il faut en partie s'éloigner du programme de son parti, cela ne signifie ni un échec ni une faiblesse.
Ces propos du président du Parlement sont perçus comme un nouvel appel adressé aux sociodémocrates du SPD. Dès l'annonce des résultats des législatives au mois de septembre, ils avaient signalé qu'ils refusaient de participer à une nouvelle coalition avec les conservateurs. Ce qui avait pris de court ces mêmes conservateurs, obligés alors de se tourner vers les libéraux et les verts pour former un gouvernement majoritaire. Près de deux mois plus tard, les sociodémocrates semblent maintenir le Nein, c'est-à-dire leur refus de participer à une coalition, comme le réitère Andrea Nahles, la chef du groupe parlementaire SPD.
Madame Merkel a été missionnée pour former un gouvernement. Nous avons notre position là-dessus. Nous disons que la grande coalition a finalement perdu, après des années, la consistance et la force qu'elle avait au départ.
Le président Frank-Walter Steinmeier compte rencontrer demain les représentants des sociodémocrates. Une rencontre dont l'issue est encore très attendue. Steinmeier est lui-même membre du SPD, d'où les espoirs qu'il pourrait peut-être faire changer d'avis sa famille d'origine.
Et la crise politique en Allemagne domine aujourd'hui encore largement les journaux, n'est-ce pas, Constance von Kotze?
À l'aide, où allons-nous maintenant? Se demandent Angela Merkel et son allié bavarois Horst Seehofer, perdu en pleine mer sur un canot pneumatique. Le dessin est publié par la Berliner Zeitung. Le caricaturiste de la Süddeutsche Zeitung préfère pour sa part la métaphore des airs. Angela Merkel au téléphone explique au président allemand qu'elle veut finalement changer de cap. La coalition jamaïque est derrière elle, sous la forme d'un avion accidenté. Ce même journal analyse aussi ce que signifie la nouvelle instabilité politique de l'Allemagne pour ses voisins. Sans gouvernement allemand, l'Union européenne perd un peu sa colonne vertébrale. Et par les temps qui courent, c'est un drame pour le Royaume-Uni, par exemple, qui est en pleine négociation sur le Brexit, ou pour Paris, qui a besoin de Berlin pour faire passer ses réformes à Bruxelles. Ironie de l'histoire, note la Frankfurter Allgemeine Zeitung, alors qu'un vent de renouveau semble enfin souffler en France avec l'arrivée du président Macron, c'est l'Allemagne qui plonge dans l'instabilité politique. Dire que cela fait des années que Berlin attend que son partenaire européen le plus proche se redresse. Loin de Berlin, et alors que Donald Trump a désigné Pyongyang comme soutien du terrorisme, un autre thème retient l'attention de Die Tageszeitung. S'est-on jamais demandé quelles étaient les conséquences sur les populations nord-coréennes des 6 tests nucléaires menés depuis 2006 par la dynastie Kim? Le correspondant du journal rapporte que le ministère sud-coréen de la réconciliation examine actuellement 30 réfugiés nord-coréens originaires de la région où ont été menés ces tests pour voir s'ils ont été contaminés par des rayonnements radioactifs. Selon un porte-parole du ministère, les résultats de ces examens seront disponibles d'ici la fin de l'année. Mais les indices d'une catastrophe sont déjà là, note le journaliste. Des témoignages font état de divers dégâts environnementaux, de malformations chez des nouveau-nés, de maux inexpliqués, de cas de leucémie. Ils sont certes difficiles à vérifier, mais ils devraient au moins motiver la communauté internationale à entreprendre des analyses indépendantes.
Et après la revue de la presse allemande, la chronique sportive et ce soir, début de la 5e journée de la Ligue des Champions, le Borussia Dortmund qui reçoit Tottenham est plus que jamais dos au mur à l'Ifarat.
En effet, l'équipe entraînée par Peter Bosch n'a pas le droit à l'erreur si elle veut garder une chance d'aller en 8e de finale. Avec 2 points pris seulement en 4 journées, le Borussia compte 5 unités de retard sur le Real Madrid, qui occupe actuellement la 2e place du groupe H. Défaite interdite donc face au londonien de Tottenham, leader avec 10 points, sous peine d'être éliminé. Le milieu de terrain Julian Weigl le sait et reste optimiste quant à l'issue de la rencontre. Bien évidemment, nous ne sommes pas aussi confiants qu'en début de saison, à l'époque où nous gagnions tous nos matchs. Néanmoins, il est important que nous restions unis pour cette rencontre. C'est du moins ce que je pense, et l'équipe aussi. Nous savons que ça va être une rencontre difficile, mais nous savons également que nous avons une chance de gagner. Le Borussia qui récupérera Pierre-Emerick Aubameyang sur le front de l'attaque. Le buteur gabonais avait été suspendu le week-end dernier face à Stuttgart pour raisons disciplinaires. Dortmund-Tottenham, ce sera à partir de 19h45 en temps universel, tout comme Apoel Nicosie contre Real Madrid.
La chronique sportive que vous retrouvez intégralement sur notre site internet www.dw.com/français. Un raid américain en Somalie tue plus de 100 militants du groupe armé El-Shabaab. Cela vient de tomber sous nos yeux et la démission au Zimbabwe du président Robert Mugabe. 17h30 en temps universel, voici notre parti magazine, le magazine Droits et Libertés de Sandrine Blanchard.